Bonjour, nous avons Bonjour. La chance aujourd'hui d'accueillir le père Bernard Pérousse, que nos auditeurs connaissent déjà certainement, car c'est une personnalité, j'allais dire, de premier plan. Il est entre autres le postulateur de la cause de béatification de Marthe Robin. Il est membre de la communauté de l'Emmanuel, si populaire. Il a été très longtemps recteur des sanctuaires de Paris le Monial, qu'il a quitté récemment avec quelques nostalgies, je pense. Et il est aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles il nous fait la gentillesse d'être à cette antenne aujourd'hui, l'auteur de différents ouvrages consacrés aux apparitions mariales. Je pense entre autres à l'île Bouchard. Et nous allons donc resituer l'histoire de Paumain par rapport à ses apparitions mariales et au destin surnaturel de la France. Bonjour mon père, merci Bonjour. D'être parmi nous. Auriez-vous l'extrême gentillesse de nous dire quelles sont justement ces apparitions mariales qui ont trait à l'histoire surnaturelle de la France et pourquoi la Sainte Vierge s'intéresse manifestement aux destinées terrestres de notre patrie?
D'accord. Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, cher ami, par donner quelques petits éléments, puis après j'en tirerai les conclusions. Quand on regarde les apparitions de la Vierge Marie en France, et qu'on les met en ligne en quelque sorte, on s'aperçoit qu'elle a souvent parlé de l'état du pays. Alors, c'est ancien, aux apparitions de Notre-Dame-du-Lot en Provence, la Vierge Marie a parlé à Benoît Trinquerel de Louis XIV.
Oui.
Ça, c'est une chose. À la même époque, ou plutôt un petit peu avant, alors là, on n'est pas dans les apparitions mariales, mais le Seigneur avait parlé aussi de Louis XIV à Sainte Marguerite Marie. Ensuite, après, quand vous regardez les apparitions du XIXe siècle, en 1830, la Vierge Marie a parlé de l'état de la France à Sainte Catherine Labourée, en lui annonçant la Révolution de 1830 et celle de la Commune plus tard en 1871. Un petit peu plus tard, vous avez donc les apparitions de Paumain, qui sont donc en 1871, hein, et un peu après, vous avez les apparitions de Pelloisin en 1876, où la Vierge Marie parle de nouveau directement de la France, de façon très directe, en fait, dans ses consignes, hein, qui d'ailleurs n'ont absolument pas été suivies. Et puis alors ensuite, après, vous avez donc les apparitions de l'île Bouchard en 1947, où la Vierge Marie parle de demande compris pour la France qui est en grand danger à une époque où on est pratiquement à un bord de guerre civile. Alors, nous constatons que la Vierge Marie, en fait, a parlé assez souvent de la France. Mais en même temps, nous pouvons constater que ce n'est pas le seul cas. Au Portugal, par exemple, en 1917, la situation du pays est dramatique. La franc-maçonnerie a pris le pouvoir au Portugal et le grand maître de la Grande Loge du Grand Orient du Portugal a déclaré que dans deux générations, il n'y aurait plus un catholique au Portugal. Et dans les apparitions de Fatima, il est dit, au Portugal subsistera toujours le dogme de la foi. Donc, vous voyez, au Kibéo, au Rwanda, la Vierge Marie a parlé du Rwanda et des possibilités d'un génocide. Et l'un des prêtres qui était responsable de la commission d'enquête, à la commission d'enquête, m'a dit, on l'a pas cru. Donc la Vierge Marie a parlé aussi de la situation, et ça serait d'ailleurs pareil à Akita au Japon. Donc en réalité, alors tout ça ce sont des faits qu'on pourrait corroborer et multiplier. Ce qu'il faut comprendre à mon avis derrière ça, c'est que la religion chrétienne n'est pas une religion désincarnée, c'est une religion incarnée. Comme dit Peggy, le spirituel lui-même s'est fait charnel. Ce qui veut dire que la Vierge Marie s'occupe de notre situation telle qu'elle est à cet instant. Et par conséquent, quand ses enfants sont dans la peine, eh bien, elle vient les secouer, les avertir et les consoler, et quelquefois les sauver.
Nous sommes donc en présence d'une attention maternelle oui. qui s'attache même, non pas aux plus petits détails, car le sort de nos patries ne sont pas des petits détails, mais à une attention toute maternelle envers les besoins de nos pays. Est-ce à dire, mon père, que la Sainte Vierge cherche dans ces cas-là non pas à régler des situations politiques, mais à aider ses enfants, quelle que soit leur patrie, à continuer à vivre en chrétien dans des situations que l'on peut qualifier de difficiles?
Oui, ça c'est une œuvre de compassion et une œuvre d'aide. Quand les gens sont dans une situation difficile, c'est normal qu'on les aide. Si les hommes le font entre eux, il est normal que le ciel le fasse, et en particulier que la Vierge Marie, qui est notre mère, notre auxiliatrice et notre mère, le fasse aussi. Donc les indications, les prières, les avertissements de la Vierge Marie sont très réels pour la situation concrète, immédiate de la planète. Le ciel est sur la Terre, contrairement à ce qu'on pense. En tout cas, il est beaucoup plus près de nous que nous l'imaginons.
Est-ce à dire, mon père, que la Sainte Vierge prendrait parti dans des situations politiques?
Mais non, pas directement, pas comme telle, c'est comme Jeanne d'Arc, si vous voulez.
Bien sûr.
La venue de Jeanne d'Arc, c'est une œuvre de compassion pour un pays ruiné et aux portes de la mort. Donc quand, par exemple, pour prendre un cas qui vous est cher, le cas de Pontmain, quand la Vierge Marie est apparue à Pontmain, elle a exaucé la prière des enfants, en fait, de la paroisse et de la France entière, en réalité, pour un pays qui était au bord de l'effondrement. Il ne s'agit pas de prendre parti comme tel. Alors après, il ne s'agit pas non plus de faire du nationalisme. C'est sûr que quelquefois, on a eu des discours qui étaient excessifs, mais ça n'invalide absolument pas le fond.
Précisément, on a quelquefois entendu ce reproche au sujet de Pontmain. La Sainte Vierge n'a pas pu prendre position entre la France et l'Allemagne, donc l'apparition de Pontmain n'a jamais existé. C'est un discours qui a eu couleur.
Malheureusement, elle a existé. Et elle n'a pas pris position contre les Allemands du tout, elle a sauvé la France, elle a aidé en tout cas à sauver la France.
Mais Notre-Dame revendique-t-elle dans ce cas-là le titre que Louis XIII lui avait donné de reine de France et de protectrice
oui.
du pays?
À mon avis, ça ne fait aucun doute.
Ça ne fait aucun doute. Est-ce que vous diriez, mon père, que justement ces apparitions mariales qui s'intéresse plus directement au destin de la France, coïncide précisément à peu de choses près chronologiquement avec justement ce vœu de Louis XIII?
Avec
justement ce vœu de Louis XIII en 1638.
Je pense que la Vierge Marie a toujours été une terre de prédilection. La France a toujours été une terre de prédilection pour la Vierge Marie. C'est pas le seul cas non plus. Il y a une présence de la Vierge Marie en Espagne, en Italie, qui est très très forte, ou en Allemagne. C'est des formes tout à fait différentes en réalité.
Très différentes. J'en parlais avec des amis italiens qui me faisaient remarquer que les apparitions mariales italiennes ne ressemblaient pas du tout aux nôtres. Il y avait une grande singularité des apparitions françaises.
Oui, et en Espagne, il y a très peu d'apparitions mariales par contre. Il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu. Comment dire ça? Je pense que chaque pays a un visage aux yeux de Dieu. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul II qui le dit, Benoît XVI l'a dit, et à la lumière de toute la tradition de l'Église qui est constante là-dessus. Donc chaque pays a son visage, chaque pays a son histoire, chaque pays a sa vocation, si l'on veut, et je crois que c'est vrai. Et donc la Vierge Marie intervient dans cette ligne, et elle aide chaque pays dans son histoire au moment où il en a besoin.
J'aime donc particulièrement, mon père, cette expression que vous venez d'employer, de vocation de chaque pays.
Oui,
pourriez-vous nous en dire quelques mots, qu'il s'agisse de la France ou d'autres nations d'ailleurs?
Bien, vous savez, on a publié un petit bouquin avec Mgr Brincard, qui vient malheureusement de mourir, qui s'appelle « Faut-il prier pour la France ?» et qui est le compte-rendu d'un colloque qu'on avait fait au Puy en 2014.
Oui.
Et on avait précisément étudié la question de la vocation de la France dans ce colloque. Mais pas que de la France. En fait, qu'est-ce que c'est une nation? Une nation, c'est une culture en réalité. C'est l'État lui-même étant que l'armature juridique ou l'expression juridique de la nation. L'État n'est pas la nation. Quelquefois, il se prend pour la nation, mais il n'est pas la nation. La nation, c'est une culture, c'est un mode d'être, c'est une histoire, c'est un consensus. C'est un désir de vivre ensemble, c'est des projets communs, enfin, voilà, une culture au sens très large du mot. Bien. Alors, il y a des cultures qui sont des cultures qui sont christianisables, c'est-à-dire que dans ces cultures-là, soit les vertus naturelles des hommes, soit la grâce de Dieu font qu'en réalité, il y a des belles choses qui sont belles et positives, qui sont vécues à l'intérieur de la culture, et ces choses-là peuvent être données aux autres nations. Alors, prenons un cas, le père de Lastoujol, qui a fait un très bon travail sur la théologie des nations en général, le père de Lastoujol lui disait que, prenez l'exemple de la Suisse.
Oui.
Et la Suisse est un pays qui a certainement une culture de l'unité, qui vient de Saint-Nicolas de Flux, en réalité, directement de Saint-Nicolas de Flux, au moment où les Suisses auraient pu se séparer entre eux, qui fait que la Suisse est un exemple de cohabitation de trois langues, de deux religions principales, de plusieurs cultures. Vous voyez,
oui.
Mais dans une culture commune du consensus, du consentement général et de l'unité. Et pour ça, la Suisse est un exemple dans les nations. Alors, il y a une vocation de l'Espagne, une vocation de la France, une vocation de l'Italie, une vocation de l'Allemagne, je n'en doute pas.
Et quelle serait dans ce contexte la vocation plus particulière de la France, mon père ?
Ah,
oui, c'est la question piège.
Oui, non, c'est pas une question piège, c'est un gros sujet, parce que la France est un pays qui est très riche, et très complexe et très ancien. Pour résumer en un mot, je vais partir de l'Italie plutôt, par effet de contraste.
D'accord, mon père.
Le pape Pie XII disait que l'Italie était le jardin de la foi planté par les apôtres. Et je trouve génial cette définition.
C'est très beau.
C'est ça. Je pense que l'Italie est un pays qui a vécu de la foi, qui a existé par la foi, qui a continué par la foi, et qui a protégé la foi. Comme des belles choses se trouvent dans un jardin. Et je pense que les Italiens sont vraiment, de ce point de vue, les jardiniers de la foi. Ça, je le crois. Le cas de la France me paraît très différent. Je pense que la France, à mon avis, la vocation, la meilleure expression de la vocation de la France a été donnée par Jean-Paul II quand il est venu au Bourget en 1980.
France, fille aînée de l'Église.
Quand il a parlé de la France, il avait travaillé pour l'homme.
Oui.
Et je crois que Peggy l'a très bien compris, lui aussi. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, la France est le pays de l'homme. Depuis très longtemps, depuis très très longtemps. C'est un des pays les plus anciennement peuplés de la Terre. Il est plus densément peuplé. Et je pense qu'en France, on a énormément travaillé l'homme. Alors, on a travaillé l'homme à la lumière de la foi, mais pas qu'à la lumière de la foi, comme Jean-Paul Lul disait très bien aussi au Bourget en 81. Mais la France est le pays qui a travaillé l'homme. Et donc, en fait, quand on dit l'homme, c'est les droits de l'homme, c'est la beauté de l'homme, c'est la dignité de l'homme.
C'est la grandeur de l'humanité.
C'est l'art de vivre entre soi. Vous voyez, c'est l'art de transmettre entre soi, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses là-dedans.
C'est terriblement d'actualité ce que vous nous dites, mon père.
Oui, je crois, oui. Je le pense vraiment.
Et dans ce contexte, Notre-Dame peut-elle précisément, aujourd'hui encore, nous apporter une aide dans les événements que nous vivons, qui justement paraissent être, l'actualité nous le prouve encore aujourd'hui, si contraire à cette grandeur de l'homme telle que la civilisation française la définit.
Oui, c'est clair que l'homme est attaqué. En fait, la civilisation actuelle est entrée dans un grand combat pour l'homme. Alors, l'homme, l'être humain, est menacé de plusieurs côtés. Il est menacé en interne par le fait qu'on n'est plus capable de faire la différence entre un homme et une femme, quand c'est plus qu'une famille, donc ça menace l'homme. Et puis il est menacé en externe, en quelque sorte, en particulier par le terrorisme islamique.
Et dans ces conditions, mon père, voyez-vous, par exemple, vous parliez de l'île Bouchard tout à l'heure, oui. Est-ce qu'à un moment donné, il vous semble que la Sainte Vierge a exprimé ses espoirs pour un redressement de la France après, au milieu des épreuves qu'elle vit?
Alors, je ne dirais pas. C'est très difficile de répondre à votre question, parce que c'est très difficile. Mais je suis persuadé que la Sainte Vierge continue à compter sur la France. Ça, je n'en doute pas. Comment je n'en doute pas? Parce que je vois qu'il y a une action de Dieu en France à l'heure actuelle qui est très importante. La France est un pays qui est partagé, mais c'est un pays vivant.
Très vivant, quoi qu'on en dise.
Il se passe beaucoup de choses. Alors, il y a des choses très vilaines, il y a des choses très brutales. C'est vrai. Mais il s'y passe aussi beaucoup de choses. Et des choses belles, grandes, nobles, et une présence de Dieu qui est quand même très forte, on ne peut pas le nier. Moi, je le vois.
juste en ce centenaire de la guerre de 14, mon père, il me semble que vous avez parlé avec beaucoup de beauté de ce qu'on a appelé le miracle de la Marne, quoi qu'il me semble qu'il n'ait jamais été reconnu en tant que tel.
Oui.
Que diriez-vous justement à nos auditeurs de ce miracle de la Marne?
Alors, pour vous dire la vérité, cher ami, je ne crois pas qu'il ait eu lieu. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle le miracle de la Marne, c'est quelque chose qui a été popularisé par l'évêque de Meaux, qui était un héros, Mgr Marbeau. Mais en réalité, ça ne repose que sur un seul témoignage et encore indirect. Et alors, comme vous êtes historienne, vous savez qu'on ne peut pas faire reposer quelque chose sur un témoignage comme ça.
Précisément.
Personnellement, je n'y crois pas.
C'est pourquoi je vous posais la question, mon père, parce que par une coïncidence assez curieuse, il s'est trouvé qu'il y a quelques mois, dans mon travail de postulatrice de la cause de l'abbé Guérin, je suis tombée sur un document assez similaire concernant non pas la Marne, mais justement 1871, où on avait raconté justement qu'il s'était passé avant la bataille du Mans un événement très similaire à celui de la Marne.
Oui.
Certains soldats français affirmaient qu'ils avaient vu la Sainte Vierge se dresser devant l'armée allemande et leur dire « vous n'irez pas plus loin ».
Mais ça, pour ça, il faut avoir le témoignage des Allemands.
Mais justement, mon père, c'est ça qui est intéressant, il s'est trouvé qu'on m'a remis, il y a quelques mois, photocopie d'un document trouvé en 1944 plus exactement, lorsque les Allemands ont quitté la Mayenne, de documents qui avaient été récupérés je ne sais où, mais auquel appartement apparemment il tenait énormément, concernant précisément cette apparition supposée. Oui. Je vous avoue que, comme vous, je pensais que ça n'avait aucune valeur historique, et j'ai été extrêmement troublé de m'apercevoir que les Allemands, eux, y avaient attaché une importance extrême. Oui.
Écoutez, moi, je serais content de voir les documents.
Ouais, j'essaierai de vous en fournir la photocopie,
l'ai.
Oui, ce sera avec grand plaisir parce que c'est tout à fait troublant. Vous voyez, je partageais votre analyse en me disant, je ne pense pas que ce soit autre chose qu'une fièvre patriotique due à l'angoisse, à ce genre de choses.
Oui, bien sûr. Je veux bien.
Mais c'est très volontiers, mon père. Et je voulais vous demander, que pensez-vous justement de notre abbé Guérin? Bon, je suis postulatrice à sa cause de béatification. Vous m'avez dit un jour, vous trouviez que c'était une très belle figure de prêtre.
Oui.
Vous qui avez une telle pratique des âmes et de la vie d'un sanctuaire, en quoi justement l'abbé Guérin vous paraît-il capable de parler aux chrétiens d'aujourd'hui?
Parce que c'est un homme qui a été un cœur extraordinaire pour son peuple. C'est vraiment un prêtre pauvre qui s'est fait pauvre avec les pauvres et qui les a élevés.
C'est certain.
Il faut voir le rapport qu'il a eu avec la paroisse et avec la commune de Pont-Mer est extraordinaire. Il fait partie de ces hommes qui ont épousé un lieu, qui ont épousé un territoire, qui ont épousé une sorte de famille collective qui était Pont-Mer et qui les a amenés à un degré humain et spirituel remarquable. On a besoin de prêtres donnés jusqu'au bout dans les causes des hommes. Dans le rapport des hommes avec Dieu.
Oui, ce qui vous frappe.
Pour moi, c'est un saint. Personnellement, si je peux dire quelque chose, pour moi, c'est un saint, un grand saint. Par contre, mais ça, vous le savez mieux que moi, je suis étonné qu'on n'ait pas introduit sa cause avant. Et je me réjouis beaucoup qu'on le fasse maintenant.
Mais vous savez, mon père, ça m'avait beaucoup, beaucoup étonné quand je suis tombé sur la notice nécrologique dans le bulletin diocésain 1872 de l'abbé Guérin, où on se borne à dire l'abbé Guérin, curé de Pomain lors de l'apparition qui fait la gloire de notre diocèse, était un de ces bons prêtres comme l'Église de France en compte tant.
Oui, ça.
Alors, je me suis dit avec beaucoup de satisfaction, l'Église de France à l'époque était peuplée de saints. Si l'abbé Guérin ne paraissait pas un cas unique.
Alors, à ce degré-là, c'était pas très fréquent.
Non, mais manifestement, à l'époque, que cela n'avait frappé personne. Alors, je pense peut-être que c'est une. Contredisez-moi si vous pensez que mon analyse n'est pas la bonne, mais que nous sommes en face d'une conception de la sainteté qui a beaucoup évolué. Au XIXe siècle, on cherchait une sainteté spectaculaire. Alors l'abbé Guérin n'a rien de spectaculaire, c'est de la sainteté quotidienne, c'est la vie cachée.
C'est possible, c'est possible.
Je crois que c'est pour ça qu'il parle davantage à notre époque, au siècle dernier.
C'est possible.
Donc pour vous, c'est justement cette alliance du sens de l'homme et du sens de Dieu dans ce cœur de prêtre qui fait qu'il est une figure tout à fait remarquable et parlante pour notre temps.
Je le crois aussi.
Je vous remercie, mon père.
Voilà, eh bien, merci, cher ami.
Je sais que votre temps est précieux. Je vous suis infiniment reconnaissant de nous avoir accordé ce moment.
Merci beaucoup.
Au revoir, mon père.